Linibel Nivigira.
La mise en onde est assurée par François Kimana. Bonjour et bienvenue à cette édition. Nous sommes lundi 4 novembre 2019. Bienvenue à cette édition de la mi-journée dont voici d'abord les grands titres. Une semaine, tel est le délai donné aux partis politiques et les organisations de la société civile qui souhaiteraient suivre le travail d'enrôlement partiel et la vérification du budget électoral. Le président de la CENI l'a annoncé ce lundi lors d'une réunion avec les partenaires électoraux. Et la régie de distribution de l'eau et d'électricité prévient de prendre des sanctions contre ses clients qui ne se sont pas encore acquittés de leurs arriérés. Vous entendrez le directeur commercial de cette entreprise publique. Les vendeurs d'unités et ceux qui exercent le transfert monétaire en mairie de Bujumbura dénoncent l'attitude de certains policiers qui les malmènent. Vous entendrez leurs plaintes et surtout la réponse du ministère de la Sécurité publique. Comme tout le lundi, vous avez droit à la chronique sportive. Aujourd'hui, l'on vous propose encore une fois le boxe. Voilà pour les grands titres.
Captez Isanganiro, écoutez la différence.
Médias pour ouvrir cette édition, les quatre journalistes du groupe de Pressy Watch et leur chauffeur passent pour le moment leur 14e journée à la prison centrale de Bubanza. C'est la chambre de conseil du tribunal de grande instance de Bubanza qui a décidé leur maintien en prison. Nos confrères sont poursuivis pour complicité d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Le procureur général de la République a sorti un communiqué de presse ce jeudi où il a indiqué que ces gens n'ont pas été appréhendés parce qu'ils sont journalistes, mais par les faits leur reprochés. Christine Kamikadzi, Agnès Ndiloubusa, Jide Halilimana, Terence Mudenzi ainsi que leur chauffeur Adolphe Massabarakis ont été appréhendés le 22 octobre dernier. Alors qu'ils étaient en reportage sur l'insécurité qui prévalait en commune Musigati de la province de Bubanza, les organisations internationales Reporters sans frontières et Human Rights Watch condamnent ces arrestations et plaident pour leur libération. Je venais de vous le dire, certains vendeurs d'unités, ceux qui effectuent le transfert monétaire, par téléphone mobile de la mairie de Bujumbura se plaignent qu'ils sont malmenés par la police. Ils témoignent qu'elle passe sur les lieux de la vente et saisit leur matériel sans toutefois en donner des raisons alors qu'ils disent être réguliers dans le paiement des taxes municipales. Ces vendeurs demandent d'être facilités dans leur travail. Reportage signé Jean-Marie Mayonga.
Ces personnes qui font le transfert des unités et de l'argent à travers leur téléphone mobile disent qu'ils ne savent pas les raisons qui font que la police saisisse les parapluies et demandent d'avoir des explications claires pour savoir pourquoi leurs parapluies sont confisqués par la police alors qu'ils ont des quittances qui montrent la somme payée dans la mairie.
Je demanderai à la mairie de prendre en main cette question. S'il faut payer des taxes, moi je demande d'être rétabli dans mes droits qui me rendent mon parapluie.
Ces commerçants demandent d'être facilités dans leurs activités s'il s'agit d'une somme exigée à payer qu'ils le sachent à temps.
Je crois que c'est général. Depuis la semaine passée, on nous a pris nos parapluies. De ce pourquoi, on ne nous explique rien. Seulement, une fois arrivés à la zone, on demandait les papiers d'identification de la mairie et comme ça, on nous remettait nos parapluies. Ce phénomène avait cessé, mais ça recommence dans ces jours-ci.
Cette activité de saisir les parapluies de ces individus vient de passer une période de 3 mois selon ces commerçants.
Merci Jean-Marie Mayonga, contacté à ce sujet. Le porte-parole adjoint du ministère de la Sécurité publique a indiqué que ces vendeurs ne sont pas interdits de travailler, mais qu'il leur a été demandé d'exercer leur travail dans les endroits connus où se rencontrent plusieurs personnes. Moïse Nkurunziza parle notamment des marchés et non dans les rues pour des raisons de leur sécurité. Et les partis politiques, les organisations de la société civile qui veulent suivre le travail d'enrôlement partiel et de vérification du fichier électoral ont un délai d'une semaine pour déposer les dossiers à partir de ce mardi. Dans une réunion avec les acteurs électoraux, le président de la CENI a précisé que seuls ceux qui ne se sont pas fait enrôler pour des élections référendaires sont concernés. Bien que la CENI estime qu'ils ne sont pas nombreux, certaines organisations estiment que le délai de 4 jours qu'elle a prévu pour ce travail n'est pas suffisant. Après une courte pause, on va parler énergie. À 13h03 dans les yeux de la radio Isanganiro, l'entreprise de distribution d'eau et d'électricité Régie des eaux demande à ses clients qui ont des arriérés de s'acquitter de ses frais dans les meilleurs délais. Le directeur commercial de la Régie des eaux l'a dit ce lundi, au moment où s'est prévue une campagne de recouvrement des impayés. Louis Moutima souligne que des sanctions sont prévues pour ceux qui ne vont pas respecter cette mesure, comme la coupure d'eau et d'électricité suivie.
Nous avons commencé la semaine passée la campagne de recouvrement. Et c'est une activité normale que nous organisons de temps en temps. Et généralement, c'est pour rapprocher nos services à la clientèle, parce que parfois, certains ménages sont occupés par ceci ou par cela. Et parfois, ils oublient de consulter les factures.
Comment c'est organisé ?
Nous prenons des unités pour renforcer l'équipe et nous formons des équipes. Ils font des descentes, c'est par calendrier. Si aujourd'hui, c'est tel quartier, ça veut dire qu'il y a une équipe qui est dans tel quartier et une autre qui est dans un autre quartier.
Qui sont les plus concernés par cette mesure ?
C'est tous les clients, mais des clients qui nous doivent de l'argent. Et c'est davantage des clients que nous appelons des mauvais payeurs.
La Régie des eaux enregistre combien d'arriérés ?
C'est variable, ça dépend des périodes. C'est difficile. Nous, on compte pour les clients. Je ne parle pas des clients qui n'ont pas payé. La clientèle de la Régie des eaux, en eau, c'est autour de 100 000. Et en électricité, c'est autour de 120 000. Et parmi ces clients, donc, certains sont en règle, d'autres ne sont pas en règle. Quand une facture est impayée et qu'elle dépasse plus de mois, nous avons la latitude de bloquer l'accès aux unités, cache pas. La deuxième mesure, quand nous arrivons sur le terrain, alors si la personne n'a pas payé en dehors, le délai lui accordé par la mise en demeure, on procède à la coupure de l'eau jusqu'à ce qu'il paye.
Une personne vivant avec un handicap physique peut entreprendre des activités génératrices de revenus. Affirmation de certaines personnes étant dans ces conditions et qui exercent différentes activités à mairie de Bujumbura. Elles expliquent qu'elles ont renoncé à la mendicité après avoir constaté que cette attitude ne les honore pas. Actuellement, ces personnes affirment qu'elles sont capables de faire vivre leur famille grâce à leurs efforts et appellent les autres à couper court à la mendicité pour développer l'esprit de créativité. Les détails dans ce reportage signé Vestine Boutoui.
Ce sont des personnes vivant avec le handicap physique, exerçant différentes activités à mairie de Bujumbura. Une d'entre elles, présentant un handicap au niveau des jambes, indique qu'elle travaille dans le service de transport au parking de bus allant vers les zones Kamenge et Kinama de la mairie de Bujumbura. Celle-ci fait savoir que dans ses premiers temps, elle est mendiée et qu'après qu'elle ait découvert que ce n'est pas une attitude digne d'un être humain, elle a quitté automatiquement la mendicité.
J'ai été mendiant pendant un certain temps. Par après, j'ai constaté qu'il ne m'en est pas digne, bien que je le fasse. J'ai décidé de quitter la mendicité.
Après avoir décroché du travail, il affirme que sa famille ne manque de rien.
Après avoir eu du travail ici, au parking, on ne m'a pas écarté. Et par conséquent, je fais vivre ma famille comme quiconque peut le faire. Par exemple, je suis capable de scolariser mes enfants.
Un autre homme de cette catégorie, qui n'a plus de bras et qui fait le petit commerce des bonbons et des cigarettes, fait savoir que même s'il a un petit capital, il parvient à se nourrir. Des gens proches de ces personnes vivant avec le handicap et qui exercent différentes activités génératrices de revenus apprécient leurs efforts au lieu de rester dans la mendicité. Ces personnes vivant avec le handicap physique et qui entreprennent des activités génératrices de revenus appellent ses pairs à être créatifs en vue de se libérer de la mendicité et demandent au gouvernement et aux différentes organisations de mettre en place des formations en rapport avec les métiers pour faciliter l'autonomie financière de cette catégorie de gens.
Merci Vestine. Le taux d'abandon scolaire a diminué dans la province de Loutana depuis un certain temps. Selon le directeur provincial de l'éducation, de la formation technique et professionnelle dans cette province, de même que le gouverneur de la même province, c'est suite aux séances de sensibilisation organisées par certains partenaires et les éducateurs. C'est donc la pauvreté des ménages qui est la cause principale des abandons scolaires et les élèves qui partent à la recherche du travail en Tanzanie. N'est-ce pas, Gérard Nibigira?
Les statistiques tirées de la Direction provinciale de l'éducation de la formation technique et professionnelle à Routana montrent que pendant l'année scolaire 2017-2018, environ 15 000 élèves et écoliers confondus ont abandonné l'école pour une population scolaire de plus de 215 000, soit un peu plus de 13%. Et l'année scolaire dernière 2018-2019, le nombre d'abandons scolaires est d'à peu près 6 800 pour un effectif total de plus de 112 000 élèves et écoliers, soit environ 6%. Le directeur provincial de l'éducation de la formation technique et professionnelle à Routana, Nguenze Buhoro Simeo, fait savoir que des séances de sensibilisation effectuées par les partenaires de cette province scolaire et les éducateurs sont à l'origine de cette sensible réduction du taux d'abandon scolaire depuis un certain temps.
Nous avons par exemple l'organisation IADH qui travaille dans notre province scolaire, que chaque fois on va ensemble dans des écoles pour cette sensibilisation. Et c'est pourquoi donc ces derniers temps nous remarquons des résultats vraiment remarquables en rapport avec cette réduction d'abandon scolaire.
De son côté, le gouverneur de la province Routana Minani Fidel indique que l'administration a aussi contribué pour arriver à cette réduction.
Depuis l'année passée, nous avons organisé des ateliers à l'endroit des administratifs locaux et c'est du secteur de l'enseignement au niveau de chaque commune. Et à cela, nous avons recommandé aux autorités locales à ce qu'ils puissent collaborer avec les éducateurs de la localité afin de traquer quiconque pourra être facteur favorisant à l'abandon de son enfant ou les enfants qui se dérobent au conseil des parents, qu'il y ait une collaboration afin de pouvoir les sensibiliser, mais aussi les contraindre à pouvoir le gagner à l'école.
Le directeur provincial de l'éducation de la formation technique et professionnelle à Routana indique que la pauvreté des ménages est la principale cause d'abandon scolaire dans cette province et les élèves et écoliers qui abandonnent l'école se rendent en Tanzanie pour y trouver du travail. Depuis Routana, Jani Bigira pour Radio Isanganiro.
Merci Gérard de Routana. Rendons-nous à Muyinga où les caféiculteurs de la commune Gasogwe réclament l'augmentation du nombre de pompes pour les éleveurs agricoles. Ils expliquent qu'il y a des collines qui n'en dépassent pas 3 ou 4, ce qui est à l'origine de la mauvaise production. Le directeur provincial de l'agriculture, élevage et environnement reconnaît l'insuffisance de cet outil et rassure que le nombre de ces pompes augmente chaque année. Placide Niyomwongere.
Comme l'indiquent les caféiculteurs de la colline Karera, commune Gasogwe, la campagne de pulvérisation du café commence normalement avec les premières averses. Mais, regrette celui-ci, certains champs caféicoles n'ont pas encore été pulvérisés faute de pompes.
Ici à Gikwiye, on n'a qu'une seule pompe. Imaginez-vous comment l'unique pulvérisateur peut parcourir toutes les plantations se trouvant sur cette colline. Moi, je n'ai pas encore pulvérisé mon café. Et après, on dira qu'on n'a pas eu de production alors qu'on n'a pas d'outils.
Ces caféiculteurs expliquent aussi que le peu de ces outils a un impact négatif sur la production.
Pour une bonne plantation de plus de 100 caféiers qui présentent une bonne floraison, on escompte avoir une production qui vaut au moins à 700 000. Au cas contraire, pour n'avoir pas été pulvérisé, on récolte à peine 70 000 et le reste de la production tombe à l'eau.
Selon un agronome sous couvert d'anonymat, l'opération de pulvérisation d'un champ de plus de 1000 caféiers peut s'étendre sur une journée. Pour Emerance Kamikazi, chef collinaire Karera, pour le moment, certains des champs restent non pulvérisés.
Sur toute la colline, on n'a que 4 pompes pulvérisateurs. Ce n'est pas suffisant. Vu le nombre de plantations caféicoles, avec ce nombre de pompes, c'est insignifiant. Les agents qui s'occupent de cette opération et qui ne touchent rien se cache derrière ce manque d'outils pour ne pas pulvériser toutes les plantations. Au moins, on devrait avoir 10 pompes.
Sur ce, le directeur provincial de l'agriculture, élevage et environnement dans la province Muyinga reconnaît l'insuffisance de ces pompes. Le GSN de Geya explique que la distribution de ces outils s'est faite compte tenu du nombre des pieds caféiers se trouvant sur chaque colline. Il tranquillise néanmoins que le nombre de ces pulvérisateurs augmente chaque année.
Cette question est déjà connue. Amazonie, mais je peux vous rassurer qu'il y a une amélioration. Mais c'est la répartition n'est pas égale au niveau de chaque de toutes les collines, parce que cette distribution des pulvérisateurs se base sur le nombre de caféiers qui se trouvent sur chaque colline. Donc la colline ayant beaucoup pris de plats caféiers et reçoit encore.
Le directeur provincial de l'agriculture, élevage et environnement conseille les caféiculteurs de bien utiliser ces pompes à leur disposition et appelle ceux qui le peuvent à s'en procurer car, dit-il, un pulvérisateur avec ses accessoires s'achète à plus ou moins 20 000 francs bout.
Merci Placide Niomongere. Tout de suite, la chronique sportive.
Radio Isanganiro, chronique sport.
La Fédération burundaise de boxe organise chaque année une compétition nationale qui regroupe 10 clubs existants au Burundi. Cela est dit par le président de la Fédération burundaise de boxe, Eric Ndayishimiye. Fait savoir que le club classé premier représente le Burundi dans les différentes compétitions internationales qui sont organisées par la Fédération internationale de boxe. Les détails dans cette chronique sportive signée Marie-Claire Kazenet.
Le boxe a été introduit au Burundi en 1972 par un certain prêtre Bordonaba d'origine belge. Ce sport a connu une chute pendant la guerre qu'a traversé le pays et c'est à partir de 1996 qu'il a été pratiqué de nouveau au Burundi. C'est l'explication de Eric Ndayishimiye, président de la Fédération burundaise de boxe.
La boxe a été introduite ici au Burundi par un certain prêtre Bordonaba d'origine belge. Il était au campus Kilili, il entraînait les jeunes, les étudiants et des gens de différents quartiers de Bujumbura. C'est depuis alors 1965 qu'on a pu voir la boxe ici au Burundi. Mais après les crises cycliques, là, les événements sanglants de 1972, on a vu le prêtre partir chez lui en Belgique, retourner en Belgique parce que la situation était un peu difficile à maîtriser. Et c'est par après alors qu'un certain Congolais Alexandre Chibangu a pu continuer à entraîner ce sport dans les quartiers. Et c'est beaucoup de Congolais qui ont fait ce sport ici. Et après, les Burundais ont pu se mêler dans ce jeu.
Selon ce président de la Fédération burundaise de boxe au Burundi, une compétition nationale est organisée chaque année et le club classé premier représente le Burundi dans les différentes compétitions internationales.
On essaie d'organiser beaucoup de compétitions parce que vous êtes au courant qu'il y a les jeux de l'EAC qui se sont déroulés ici. La boxe a été parmi les premiers sports à remporter la victoire parce qu'on a fait des matchs interclubs ici, beaucoup de matchs. Et après, le convoi est venu et nous avons pu mesurer nos capacités. Après, il y a eu aussi un championnat d'Afrique. Dans quel championnat on a pu décrocher aussi 2 médailles de bronze. Parce que la boxe progresse plus qu'auparavant.
Le manque des moyens et des entraîneurs spécialisés dans le domaine de boxe sont certains défis auxquels font face les boxeurs burundais, selon Eric Ndayishimiye.
Comme défi, chez nous, il y a un problème d'entraîneurs qualifiés, reconnus par l'Association internationale de boxe. Il y a aussi le manque de juges arbitres aussi, qui sont qualifiés. Nous essayons de les former localement, mais ils ne sont pas reconnus au niveau international. Les autres problèmes, c'est par rapport au matériel. Le matériel de boxe, ça coûte énormément cher. Pour l'avoir là, bien avant, il y avait l'Association nationale de boxe AIBA qui donnait du matériel, mais c'est stoppé maintenant.
Ce président de la Fédération burundaise de boxe appelle les boxeurs burundais à se débrouiller en cherchant les outils dotés à ce sport, tout en demandant au ministère ayant le sport dans ses attributions de les soutenir dans les compétitions qu'ils organisent.
Merci Marie-Claire Cadenez. Et bien voilà, 13h15, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Mais avant de nous séparer, je vous rappelle juste qu'une semaine est le délai donné aux partis politiques et les organisations de la société civile qui souhaiteraient suivre le travail d'enrôlement partiel et la vérification du fichier électoral. Une annonce est faite par le président de la CENI ce lundi lors d'une réunion avec les partenaires électoraux. Point final à cette édition. Je dis merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à François Kimana pour la mise en onde. Eline Ben Nibigla, j'étais à sa présentation. Je vous souhaite de passer une excellente après-midi. Au revoir.